si on en vient maintenant à vos publications, à vos travaux personnels, moi, je dois dire que je trouve que ça porte sur l'aspect le plus fascinant de l'archéologie, puisque vous travaillez sur ce qui semble le plus éloigné pour le grand public de l'archéologie, où on pense, comme vous le disiez tout à l'heure, pierre, terre, fouille. Et vous, vous avez réussi à partir de ça à travailler sur l'agriculture, sur le fromage, sur la culture matérielle qui semble complètement disparue ou effacée. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on arrive à résoudre cette énigme à partir de l'archéologie ?
Ah, oui, parce qu'en fait, l'archéologie n'est pas effectivement ce qu'on croyait qu'elle était, ce à quoi on la réduisait plus exactement jusque dans les années au moins 70, si ce n'est pas après pour certains, c'est-à-dire dégager des murs pour mettre au jour de beaux monuments. On peut s'intéresser à la vie des plus humbles et on peut s'intéresser à leurs activités, et non pas seulement à leur maison d'ailleurs en plus. Mais ces activités sont évidemment beaucoup plus difficiles à restituer. On a très peu de textes et d'autres documentations. Et finalement, on fait de l'histoire en s'appuyant sur des données matérielles. Mais ces données matérielles dépassent largement la pierre et la construction, puisque finalement, ça va, comme j'ai parfois l'habitude de le dire, ça va du pollen à la cathédrale, les vestiges archéologiques. Et donc, c'est justement avec les pollens, par exemple, ou avec des analyses qu'on fait sur les ossements qu'on trouve de faune qu'on appelle l'archéozoologie, ou des restes de graines qu'on appelle la carpologie, ou tout un tas de disciplines qui font appel à d'autres sciences que l'histoire, certainement. C'est ça qui aussi m'a toujours intéressé dans l'archéologie, c'est que c'est extrêmement diversifié et il faut avoir des connaissances un petit peu dans tout un tas de branches, parce que pour poser les bonnes questions aux spécialistes, il faut quand même avoir quelques notions de base, au moins, de ces autres disciplines. Et donc c'est avec ça qu'on arrive à... avec évidemment aussi le mobilier, c'est-à-dire les poteries, les monnaies, les objets en métal ou parfois en os ou en bois, c'est plus rare, parce qu'il faut qu'ils soient conservés dans l'eau pour être conservés. Mais c'est avec tout on fait vraiment feu de tout bois, c'est le cas de le dire pour le bois, et en utilisant tout ce qui est utilisable. Et finalement, chaque année, peut-être pas chaque année, mais au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus de disciplines dont on trouve des applications en archéologie. Y compris aujourd'hui avec la génétique. Puisqu'on retrouve de l'ADN fossile qu'on n'espérait pas trouver dans des quantités extrêmement faibles et qu'on arrive à analyser malgré leur faible quantité dans les ossements des animaux, et y compris pour des périodes bien plus anciennes que celles qui m'occupent, c'est-à-dire la période romaine, où là c'est encore relativement bien conservé, même si c'est dégradé.
Donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir en gros ce que mangeaient les Gaulois.
En gros, puisque on a des indications sur l'alimentation végétale par les graines et les pollens, des indications sur l'alimentation carnée par les restes osseux, voire les arêtes de poisson ou les coquilles de coquillages marins ou parfois fluviales, enfin terrestres.
Et le fromage, alors ?
Alors, le fromage, là, en l'occurrence, on a des textes, pas beaucoup, sur la Gaule très peu, mais un petit peu quand même. On a de l'iconographie, sur la Gaule pratiquement rien, c'est-à-dire des images, dans des sculptures ou des peintures murales ou des mosaïques, par exemple. Et puis, on a surtout, pour la Gaule, des données archéologiques. Et on a la chance, en Gaule, d'être dans une région où, pour des raisons qui ne sont pas très claires, les Gallo-Romains ont trouvé plus pratique de faire des faisselles, c'est-à-dire les vases où on égoutte le fromage pour en extraire le petit lait et avoir du caillé qu'on peut transformer ensuite en fromage par séchage, et d'utiliser des vases, des faisselles donc en terre cuite, alors que les faisselles sont habituellement en vannerie de saules, de différents fibres végétales qui peuvent être utilisées en vannerie, comme on en voit sur l'iconographie à Pompéi, par exemple, sur les peintures murales de Pompéi. Mais les Gaulois ont trouvé plus pratique, enfin les Gaulois, les habitants de la Gaule romaine, ont trouvé plus pratique de faire ça par les potiers du coin. Ça leur évitait de passer des journées d'hiver à se faire des vanneries. Sans doute, on n'a pas trop d'autres explications. Oui. Parce qu'il n'y a qu'en Gaule, un petit peu dans les régions danubiennes et en Grande-Bretagne, qu'on a ces faisselles en terre cuite. Il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde romain.
D'accord.
Alors, c'est une chance parce que c'est la manière de prouver qu'on faisait des fromages dans ces régions-là.
Oui.
Et ce qui était assez amusant d'ailleurs, si j'ai le temps de, de développer un tout petit peu, c'est que quand on regarde ce qui est mentionné comme, par les textes comme fromage en Gaule, c'est tout dans le Midi. Mmh. Et tout ce qui est attesté par la présence de ces faisselles en terre cuite, c'est tout dans le Nord.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, on devait produire du fromage partout et que par endroits, on les faisait dans des trucs en terre cuite, mais que, évidemment, les textes mentionnent ce qui est le mieux connu depuis par les auteurs, qui sont surtout italiens quand même, romains, c'est-à-dire le Midi, la Narbonnaise.
D'accord. Ouais, c'est super intéressant.
Mais ça n'a pas de signification sur la réalité des productions fromagères plus importantes dans ces régions-là qu'ailleurs. Simplement, c'est un peu le hasard des données. Un effet de source, comme on dit.
Oui, c'est ça. Il y a toujours un effet de source et de... Enfin, en fait, tisser des relations entre les textes écrits et puis les sources matérielles.
Et là, c'est très amusant de voir cette dichotomie.
D'accord. Et vous êtes intéressé aussi au textile, en fait. Là,
oui,
est-ce qu'il reste
ça fait longtemps, parce que ça fait... Dans les années 80, je me suis intéressé au textile. Je me suis intéressé aussi, toujours depuis, d'ailleurs. Mais j'ai fait un article sur les informations qu'on avait sur le textile dans la région ici, à l'époque romaine. Alors là, on a un petit peu de texte, pas beaucoup, quelques données iconographiques, pas beaucoup non plus, mais il y en a un petit peu quand même. Et puis aussi, là, encore une fois, des données archéologiques, parce qu'on a des fusaïoles qui sont en fait des rondelles de terre cuite qu'on enfile sur le fuseau pour faire le fil. Et on a aussi des pesons de métier à tisser, qui sont des pesons en terre cuite, pour tendre les fibres de chêne sur le métier, qui étaient des petits métiers verticaux et non pas des métiers à plat comme on les utilise traditionnellement aujourd'hui, et dont les fils étaient tendus par des poids en terre cuite, en général parfois en pierre, mais plus souvent en terre cuite. Et quand on trouve ça, on sait qu'il y avait des métiers à tisser, donc on faisait du tissage.
D'accord. Et on tissait plus la
laine. Alors évidemment,
les
métiers eux-mêmes étaient
en
bois, donc on ne les retrouve pas, sauf c'est très rare qu'on en ait trouvé des restes. Parfois, on trouve les trous pour les poteaux. Parce que ça a des dimensions assez caractéristiques. Mais c'est assez rare dans certains contextes. Mais c'est en général les pesons qui permettent d'identifier une activité de tissage.
Très bien. Et il y a aussi un grand changement qui a traversé l'archéologie au cours de votre carrière. C'est en fait l'arrivée du numérique et l'archéomatique et toutes ces questions-là. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous avez travaillé, vous ?
Alors, j'ai travaillé indirectement. C'est-à-dire que moi-même, je pratique l'informatique basique. Dans la formation... dès la maîtrise des sciences et techniques, on avait tout un enseignement sur ces questions qu'on a appelées archéomatiques, c'est-à-dire, en fait, la géomatique appliquée à l'archéologie. C'est-à-dire toutes les applications informatiques qu'on puisse utiliser, que ce soit en cartographie avec les SIG, que ce soit pour les bases de données, etc., etc., pour les créations de 3D numériques qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, etc. Donc tout ça, on avait une formation de base dès la maîtrise des sciences et techniques, qu'on a continué après, si bien que c'était la spécialité de la formation d'archéologie, et c'est toujours une des spécialités de la formation d'archéologie de Tours, que d'avoir cette spécialité archéomatique. Grâce notamment à Xavier Rodier qui a nous a aidé à développer ça, puisque lui est vraiment plongé là-dedans.
Et donc, c'était Xavier qui enseignait, qui donnait les enseignements.
Il était, pour la maîtrise des sciences et techniques, un peu jeune, puisqu'il
oui,
est...
c'est ce que j'allais dire, il était trop jeune.
Il était un petit peu jeune à l'époque, mais ensuite, il est intervenu. Mais il y avait d'autres personnes aussi qui ont été formées. Pour les bases de données, par exemple, Philippe Uzi, avec sa base de données sur la céramique qui s'appelle ICERAM, qui marche très bien, bon, donner des enseignements sur la manière de faire des bases de données qui soient interactives et qui soient souples à l'usage, et non pas des grosses machines comme on avait imaginé dans les années 70, c'est-à-dire des bases de données universelles où on allait mettre tout ce qu'on savait. Et ensuite, on allait avoir automatiquement la réponse à nos questions. Ça ne marche pas comme ça. Mais pas du tout comme ça. Si on n'a pas posé avant les questions, on fait des mauvaises bases de données.
Il faut qu'elles soient très spécialisées sur un support,
et
un matériel.
Et construites en fonction des questions qu'on va poser. Une base de données universelle, ça ne marche pas. C'est des machins.
C'est un vieux rêve, pourtant. C'est un vieux rêve de bibliothécaire aussi, mais on n'y est jamais arrivé.
Ah, pas seulement des bibliothécaires.
D'accord. Est-ce que il y a un souvenir marquant en tant qu'archéologue que vous souhaiteriez évoquer ?
Qu'est-ce que je pourrais évoquer comme souvenir marquant ? Je sais pas trop. Une découverte ou un truc comme ça ou...
Oui, ou
un chantier qui vous a marqué.
Celui qui m'a le plus occupé et vraiment intéressé, c'est le plus long que j'ai eu, et c'est plutôt vers la fin de ma carrière d'ailleurs, puisque c'est dans les années 90 et 2000. J'ai pris ma retraite en 2005. Que je me suis occupé de cette ville romaine de Javol, en Dirittum dans l'Antiquité, et où là j'ai fait un programme qui a duré jusqu'à 2010, mais dont j'ai abandonné la direction en 2005, quand j'ai pris ma retraite, en la passant à des personnes qui avaient travaillé en collaboration avec moi à ce moment-là, pour continuer jusqu'à 2010, et j'ai continué à y participer, mais non plus comme responsable en chef. Et donc là, on a fait, j'ai l'impression, un bon travail, c'est-à-dire qu'on a fait un travail qui est très important, et dont j'avais jugé l'importance avec des collègues depuis très très longtemps, c'est-à-dire l'évaluation. C'est-à-dire qu'avant d'intervenir sur un site, il vaut mieux avoir une idée de ses dimensions, de son organisation générale, de sa chronologie, pour pouvoir ensuite faire les fouilles aux endroits les plus pertinents. Et c'est pareil en archéologie, d'ailleurs préventive, que ce soit en archéologie préventive ou en archéologie programmée, c'est mieux d'avoir une évaluation du site avant. Et donc c'est ce qu'on a fait à Javol, c'est-à-dire qu'on a fait des sondages partout où c'était possible, puisqu'on n'était pas en contexte préventif, donc on pouvait le faire que là où on nous autorisait, pour les propriétaires privés ou publics. Pour délimiter la ville, dont les limites n'étaient pas connues, pour comprendre un peu son organisation globale, avec son système de voirie notamment, et pour voir où pouvaient être les principaux monuments publics, c'est une chose importante évidemment pour les villes romaines, notamment le centre avec le forum, le temple et la basilique. Et les nécropoles, qui sont aussi une manière de délimiter la ville, parce qu'elles sont toujours en limite extérieure des villes, ces nécropoles. Et donc, petit à petit, on a pu avoir ça, et puis avoir aussi une vision chronologique large pour savoir, en gros, quand la ville était apparue et quand elle avait disparu. Et donc, on a pu publier une monographie assez épaisse en 2011, juste à la fin du programme, d'ailleurs, les opérations se sont arrêtées à ce moment-là, faute de combattants sur place, parce qu'il n'y avait plus personne pour diriger la fouille. Et ça n'a jamais intéressé les gens de la région, Parce que les gens, la région, c'est toujours Languedoc-Roussillon qui est maintenant rattaché à... Comment ça s'appelle Occitanie, c'est ça, oui. Mmh. Occitanie. Mais ils considèrent que c'est au nord des Cévennes, c'est la barbarie.
Oui. La Lozère, c'est...
En gros, c'est la barbarie au nord de Cévennes. Donc, ça n'a jamais intéressé les gens de l'université de Montpellier, à qui j'ai proposé une collaboration dès le départ. Non, ça ne les a pas intéressés. Et donc, quand on a laissé tomber, il n'y a personne qui a pris le relais. Et donc, c'est maintenant arrêté. Mais il y a toujours un musée, il y a toujours des activités. Et, et depuis, j'ai continué à travailler dessus, et notamment en créant une visite avec... 3D, avec des lunettes de 3D, où on peut se promener à l'emplacement du forum en voyant le forum en élévation. On peut entrer dans une domus, une maison urbaine, et visiter la cuisine en élévation. Et c'est vraiment spectaculaire. Moi, j'ai été surpris, même si j'avais créé complètement... Enfin, j'avais aidé à donner les conseils scientifiques pour que ça soit correct par rapport à ce qu'on peut imaginer des élévations, dont on ne dit rien. A priori, sauf les restes qu'on trouve à terre. Ça marche bien et ça a beaucoup de succès.
Ouais. Et les habitants de Javol d'aujourd'hui, ils ont participé, ils se sont intéressés à ce...
Alors au départ, ils ont regardé d'un pas très bon œil parce que je demandais si on allait les embêter sur leur terrain. Mais après, ça a été très bien, surtout qu'on participait à la fête, au village tous les 15 août, avec une équipe supplémentaire pour les Jeux qu'ils organisaient à cette occasion. Et donc ça s'est très bien passé pendant presque pratiquement toute la durée. Il n'y a que la première année où ils nous regardaient un peu de travers, mais ça s'est vite arrangé.
Sur une dizaine d'années, ça laisse le temps de créer des liens.
Et le maire actuel est tout à fait coopératif et aide dès qu'il le peut avec ses... moyen, mais parce que c'est une petite commune, mais qui fait partie maintenant d'une communauté de communes. Et donc c'est la communauté de communes qui a créé le musée. Enfin, plus exactement, qui a créé le musée à l'intérieur d'un local qui appartient au département. C'est un peu compliqué. Mais
c'est souvent une imbrication.
C'est toujours des montages comme ça.
Ouais.
Et il y a une très belle réalisation, d'ailleurs, qui a été faite de réalité mixte, où on voit de la vidéo de Javol aujourd'hui. Et avec une sorte de survol où on alterne avec une vue et une reconstitution 3D, qui est vraiment...
Vous avez eu l'occasion de le voir ?
Oui, parce que j'ai dû transférer un des fichiers, moi, pour le LAT.
D'accord.
C'est à cette occasion-là.
Parce qu'on devait venir... Ils ont fait la région, parce que c'est la région qui a financé tout ça, depuis la fin de la fouille, en 2010. L'aménagement du site aussi, d'ailleurs. La région a créé une structure qu'ils appellent... je n'ai plus le nom en tête, mais qui était une structure qui gonflable avec justement la présentation de ce que vous avez vu et qui devait pouvoir circuler. Et puis ils auraient des problèmes de financement, si bien que ça ne pouvait plus circuler en dehors de la région là-bas.
Oui.
Et on devait la faire venir à l'occasion d'une des fêtes de la science. Mais ça fait déjà 3 ans qu'on essaye et que ça ne marche pas.
Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de l'archéologie dans le monde d'aujourd'hui ?
Dans le monde, je n'ai pas d'idée précise parce que c'est très, très varié. Il y a des législations extrêmement variées, plus ou moins protectrices du patrimoine archéologique, même si ce terme est parfois un peu surutilisé, en tout cas en France, parce que finalement, il n'y a pas que cette dimension patrimoniale, il y a aussi une dimension scientifique qui n'est pas... strictement patrimonial dans la conservation de ces vestiges. Ce n'est pas juste pour conserver des antiquités, c'est aussi pour pouvoir les étudier avec en ayant suffisamment de temps pour qu'il faut prendre pour faire ça correctement. Et donc dans le monde en général, en Europe, c'est relativement homogène, mais c'est quand même assez varié dans le détail. Et en France, ça n'a pas forcément très bien évolué pour l'archéologie préventive. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a un organisme, INRAP, qui est un organisme, qui est un établissement public de recherche. Mais depuis la modification de la loi en 2003, il y a la possibilité de concurrence par par des opérateurs privés, qui d'ailleurs ont des, parfois sont d'excellents opérateurs, qui ont des personnels tout à fait compétents. Évidemment, cette concurrence ne favorise pas forcément l'aspect scientifique des choses, parce qu'en fait, ensuite, c'est au mieux offrant. Quand un aménageur veut faire appel à l'un d'entre eux pour une opération préventive, c'est lui qui paye, l'aménageur. Donc, il va évidemment chercher le mieux offrant. Et le mieux offrant, parfois, il baisse la qualité pour pouvoir baisser les prix, la qualité scientifique de l'opération, en nombre de personnes, en prestations, etc. Et donc, ce genre de choses n'est pas très favorable à une archéologie plus sereine qu'on imaginait possible en archéologie, y compris en archéologie préventive, c'est-à-dire en amont des travaux, à condition de s'y prendre suffisamment tôt pour ne pas gêner les travaux au moment où ils sont prévus. Et donc, ça a évolué de cette manière-là. Et puis, l'INRAP aussi a été créé un peu à la va-vite, sans justement prendre des précautions, qui sans doute aurait évité d'ailleurs la modification de la loi de 2003. Et moi, je me suis un peu opposé à la manière dont ça s'est fait en catastrophe, sous prétexte qu'il fallait profiter qu'on avait un ministre de gauche, parce qu'il y avait de toute façon un consensus à gauche et à droite pour changer les choses et faire une nouvelle loi. Donc ça serait passé aussi avec la droite, et peut-être qu'à ce moment-là, il ne serait pas revenu dessus de manière aussi dure en 2003. Et donc, on a eu quand même un conflit avec Demoule à l'époque, qui était dans ceux qui ont créé l'INRAP et qui a été ensuite directeur pendant de nombreuses années. Et un petit groupe d'archéologues qui était composé notamment d'un archéologue de collectivité de la ville de Douai, de Molon, de Jean Chapelot, un médiéviste qui a toujours été actif dans ce domaine-là et avec qui je suis en rapport d'amitié depuis 50 ans et plus, depuis le groupe archéologique de la Sorbonne, en gros, et moi, pour justement dire qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour bien réfléchir aux choses. Et on imaginait plutôt, d'ailleurs, non pas un truc national, mais plutôt des déclinaisons régionales, ce qui aurait sans doute facilité certaines choses, notamment pour les collaborations, oui, notamment financières d'ailleurs, avec les collectivités, avec les régions, du point de vue des collectivités territoriales, je veux dire, la région en tant que collectivité.
Oui, surtout qu'en 2001-2003, la décentralisation était déjà bien opérationnelle, les structures existaient.
Ça aurait été vraisemblablement mieux décliné par région. D'autant que la manière de faire l'archéologie est sensiblement différente. Donc, maintenant, l'INRAP a des bases dans toutes les régions, certains opérateurs privés d'ailleurs aussi, de plus en plus, notamment les plus gros, qui sont EVA et Archéo du Nome, par exemple, qui sont les plus gros intervenants parmi les privés. Mais finalement, on aboutit à ça. Mais il y a toujours quand même le fait que pour beaucoup de choses, il faut passer par la centrale. Et ça, c'est un défaut français. Tout doit passer par Paris.
Et ça ralentit. Et parmi vos étudiants de la maîtrise, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui chez EVA ou Archéo du Nord ?
Oui, oui. On a des ex-étudiants, soit de la maîtrise des sciences et techniques, soit de la formation d'archéologie par la suite. Depuis donc 2000, on a dû changer en 2000. En 1999, la forme de la formation, si je puis dire. Donc ça fait déjà un petit moment, puisque ça fait presque 25 ans, oui, précisément. Et donc
S'il y avait des étudiants dans ces...
Oui, donc on a bien des étudiants, notamment chez EVA, chez Arc du Nom. Et bien sûr, à l'INRAP, il y en a beaucoup aussi.
Et le fait qu'ils aient été formés ensemble, ça ne facilite pas les relations par la suite ?
Si, si.
Si, quand même.
Si, si. Mais en général, les archéologues de terrain eux-mêmes, qu'ils soient à l'INRAP ou ailleurs, s'entendent bien. C'est les centrales qui ne s'entendent pas. parce qu'elles sont en concurrence. Mais les gens qui sont sur le terrain, ils sont interchangeables. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient à l'INRAP qui sont passés à EVA ou l'inverse, ou à Arché du Nôme. Il y a beaucoup d'échanges, car ce n'est pas des mariages.
Ah oui, c'est un autre...
Et la ville est bête.
Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez évoquer justement quelques personnes avec qui vous ont accompagné dans tout ce parcours, cette vie d'archéologue ? Vous avez rapidement parlé de Jean Chapelot, mais il y a peut-être d'autres...
Alors, comme je vous disais, je considère que j'ai toujours été indépendant et autonome. Et j'ai jamais eu vraiment de patron, au sens universitaire, où on entend un patron. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont influencé, certains plus que d'autres. C'est le cas de Jean Chapelot, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de Christian Goudineau, qui est professeur d'abord à Aix-en-Provence et puis au Collège de France, et qui était pour moi le meilleur spécialiste de la Gaule romaine, à qui j'ai dédié d'ailleurs l'histoire de la Gaule romaine que j'ai écrite en 2006, si je me souviens bien, avant sa mort, puisqu'il est mort maintenant il y a une dizaine d'années. Et quelques autres personnes qui m'ont influencé comme ça, mais finalement, sans avoir vraiment un patron au-dessus de moi, en tout cas, la hiérarchie, j'ai jamais été très... très chaud pour ce genre de choses. J'ai toujours eu des problèmes avec ceux qui étaient censés être au-dessus de moi.
Bien. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que vous souhaiteriez aborder au terme de cet entretien ?
Non, je pense qu'on a bien fait le tour, aussi bien des problèmes d'archéologie préventive, d'archéologie... urbaine, j'en ai parlé moins parce que ce n'est pas ma spécialité, mais ça a joué un rôle très important dans le développement de l'archéologie préventive. C'était la partie urbaine des choses, avec la création du Centre national d'archéologie urbaine à Tours. Mais je pense qu'Henri Galinier vous en a beaucoup parlé. Mais c'est des choses qui étaient complètement imbriquées, ces deux choses. Moi, j'ai toujours été un ruraliste. Je m'intéresse plutôt aux campagnes. Qu'aux villes, mais bon, j'ai fini par fouiller pendant 10 ans.
Voilà, finalement.
Dans une ville à la campagne.
Une petite ville à la campagne.
Le mieux, c'est de construire les villes à la campagne.
Bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien.
Mais je vous en prie.
Merci.
C'était avec plaisir.